on y pense. Puis, la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Il y a ainsi cette escalade, et même sûrement notre responsabilité, et de ne pas se laisser aller à cette escalade, que nous ne laissions pas le péché dominer, régner sur nous.
Et c'est toute la marche chrétienne, finalement. Et se mettre en colère légèrement contre son frère, c'est à la portée de chacun. Mais nous sommes exhortés à ne pas aller plus loin. Ne laissez pas libre cours à ce qui en vous risquerait de vous conduire dans des égarements. De la même manière, quiconque regarde une femme pour la convoiter, etc., c'est à la portée de chacun. Mais ne laissez pas libre cours à ce genre de choses qui est le péché qui habite en vous. Les occasions de convoitise sont multiples dans le monde. Peut-être aujourd'hui plus que jamais. Eh bien, cette exhortation est toujours d'actualité, elle l'a toujours été et elle l'est d'autant plus que jamais. Ne pas persévérer dans ce qui nous conduirait dans des liens d'où nous ne pourrions pas sortir facilement et qui ne sont pas selon Dieu.
Le problème est peut-être moins d'avoir des pensées négatives que d'avoir des pensées positives. Si nous sommes occupés de ce que Dieu veut pour nous, de ce qu'il nous demande de faire au quotidien, dans des choses qui nous paraissent bien ordinaires, parfois même bien triviales, est-ce que nous aurons place aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, comme dit Pierre ? Non. Si on n'a pas d'amertume dans son cœur, si on n'a pas de convoitise, c'est l'état normal. Enfin, c'est ce que nous dit la parole. Et on voit que c'est ce qui nous est souvent difficile. On vit effectivement dans un monde où la règle d'or aujourd'hui, c'est se faire plaisir, c'est penser à soi. Et c'est difficile d'aller à contre-courant. Surtout que finalement, on peut dire que l'ennemi avance caché, bien déguisé. Alors le texte continue sur le divorce. Il y avait en Israël deux écoles chez les rabbins. Et c'est un peu la question qui est posée en Matthieu 19. On vient un peu mettre le Seigneur à l'épreuve. Au verset 3, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Il y avait le rabbin Hillel qui disait que on pouvait répudier sa femme, paraît-il, pour un plat brûlé. Puis il y en avait un autre, je crois que ça s'appelait Shammai ou quelque chose comme ça, qui lui s'en tenait plutôt à la parole, c'est-à-dire, selon le texte de Deutéronome 24, la cause de divorce était, bien que ce ne soit pas mentionné en Deutéronome de façon claire, c'est l'adultère ou quelque chose de malséant. Et donc un peu les pharisiens viennent dire au Seigneur, mais tu es de quelle école toi ? Alors le Seigneur revient à ce qui est au commencement, à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que le mariage n'est pas un sacrement. Le mariage n'est pas un contrat qu'on peut défaire à un moment ou à un autre de sa vie. C'est un lien indissoluble. Mais il n'y a que deux choses qui peuvent le rompre, la mort ou l'adultère. Alors ils disent au verset 7, Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? Moïse n'a jamais commandé, c'est ce que le Seigneur leur dit. Il vous a permis. C'est un pis-aller en quelque sorte. Oui, bien sûr, il y a une cause qui est possible de divorce, c'est l'adultère, parce que le lien du mariage de fait a été rompu. Et que dans certains cas, pour protéger l'épouse et les enfants, on donne une aide de divorce. Parce que la condition sociale à l'époque était telle que souvent les femmes n'avaient plus de ressources, plus rien pour vivre quand elles étaient répudiées. Et donc établir une aide de divorce, c'était lui donner une certaine liberté de se remarier. C'était reconnaître que cette personne y était pour rien finalement. Et c'était attester de son honnêteté, sa pureté de son côté. C'était une mesure de grâce. Et c'est pour ça que Joseph, c'est ce qu'il pensait donner à Marie quand il a appris qu'elle était enceinte. C'était une démarche tout à fait noble de sa part. Sinon, c'était la lapidation. Donc on voit comment la grâce, même dans l'Ancien Testament, est toujours présente dans les relations humaines. Et le Seigneur va bien au-delà de la loi. À la femme adultère, il ne dit pas lapidella. L'Iva ne pêche plus. Il y a le pardon. Il y a toujours la possibilité de pardon et de revenir. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 7, est face aussi à des situations d'église qui sont difficiles. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, on divorçait pour un oui ou pour un non. Et il y a des païens qui avaient divorcé 6, 8, 10, 20 fois et plus dans leur vie. On a des textes profanes de l'époque qui nous montrent que le divorce était extrêmement courant à l'époque de l'apôtre Paul. Et voilà des gens qui rentrent dans l'église, qui se convertissent, qui ont derrière eux un lourd passif dans le domaine conjugal. Que faire? Et c'est remarquable de voir que l'apôtre va donner tout un enseignement extrêmement précis sur que faire quand on a eu ce lourd passif derrière soi et qu'on est devenu croyant, et qu'on a affaire à un conjoint qui ne l'est peut-être pas croyant.
On a dit et écrit que, aux yeux de Dieu, le mariage était indissoluble et que la répudiation ou la lettre de divorce ne détruisait pas ce lien. Si même aux yeux des hommes, comme Daniel vient de le dire, une grâce est accordée. Mais aux yeux de Dieu, ce lien n'est pas détruit. On a cela au verset 32, puisqu'il est dit que quiconque répudie sa femme, plutôt à la fin du verset 32, quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Il semble que le texte est très fort là, n'est-ce pas? Je ne veux pas revenir en arrière, mais juste une pensée là. Le paragraphe verset 27 à 30, ce qui est peut-être difficile pour nous, c'est le fait de discerner les convoitises ou le mal qui peut se manifester. Et c'est peut-être le côté difficile, justement, d'arracher son œil avec le sens spirituel que ça a, et en même temps la main droite, n'est-ce pas? Je crois que c'est le côté difficile pour nous, et je dirais volontiers pratiquement même impossible, parce que, en particulier quand on est jeune, voir ce regard vers une femme, c'est très difficile. Ne pas être attiré par quelque chose de sa vue, quelque chose qui est malsain ou autre, c'est très difficile, et ainsi de suite. Et je crois que là, nous avons le... Daniel l'a dit tout à l'heure, le secret de tout ça, c'est d'être occupé du Seigneur, mais peut-être aussi on peut dire que le secret de tout cela, c'est la prière et la demande à Dieu de nous épargner ces choses.
Il y a le mot répudier qui pose un peu problème. Répudier, parce que on dit, mais c'est plus ce qui se produit maintenant, c'est plus la répudiation. C'est le divorce, c'est pas pareil. Mais en fait, répudier, si j'ai bien compris, c'est renvoyer. Si quelqu'un répudie ou quelqu'un renvoie sa femme, comme cela se faisait, donc comme on le voit dans Deutéronome 24. Et est-ce que vraiment il y a une différence entre expression répudier ou divorcer? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'on peut... J'en ai pas trouvé dans les dictionnaires, mais peut-être qu'il y a une explication.
Je crois qu'il ne faut pas jouer sur les mots. En Matthieu 19, pourquoi donc, verset 7, Moïse vous a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Ça va ensemble. Et il leur dit, Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a permis de répudier vos femmes. Le divorce et le renvoi, ça va ensemble. Et quiconque épouse une femme répudiée, donc divorcée, commet adultère. Le lien est scellé par « vous serez une seule chair ». Et on fait un peu dans le divorce le chemin inverse de celui qui est dit en Genèse 2, c'est-à-dire on commence par l'adultère, par briser ce lien. Et puis après, il y a l'aspect souvent public qui correspond à quitter père et mère. Mais aujourd'hui, les choses sont devenues terriblement compliquées parce que les gens se séparent parce qu'ils ne peuvent plus s'entendre. Pas forcément parce qu'ils commettent adultère, mais parce qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, y compris parmi les croyants. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est difficile, des situations où Il y a de l'amertume, de la jalousie, de l'incompréhension. Il est clair que dans la parole, la meilleure solution, c'est se mettre à genoux et puis confesser son péché. C'est la bonne solution, mais ce n'est pas toujours ce que nous faisons, nous, pour d'autres péchés que nous avons commis non plus. Donc, ne jetons pas la pierre, essayons de comprendre, et puis, ce qui ne veut pas dire tout accepter non plus. Parce que dès l'instant où il y a adultère, la parole est très claire. Là, il y a un péché grave, très grave, qu'il faut sanctionner au niveau ecclésiastique.
C'est vrai que cet enseignement du Seigneur, il bouscule les disciples. On voit leur réaction en Matthieu 19, ils disent « mais c'est pas possible ». Si la situation est si difficile que ça, mais ça ne vaut pas le coup de se marier. C'est ce qu'il est dit en Matthieu 19, verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il ne convient pas de se marier. Ça devient tellement difficile qu'il faut éviter le mariage. Et le Seigneur leur dit, non, il y a quand même... Tous ne reçoivent pas cette parole que je vous dis. Mais il y en a qui ont reçu cette par grâce, cette capacité de mettre en pratique ce que je leur dis. Parce que, donc, en Matthieu 19, le Seigneur dit que, effectivement, on parle de séparation, de divorce, comme Daniel vient de le dire, il n'y a pas toujours le motif d'adultère, mais par contre, quand il y a remariage, il y a adultère. Celui qui répudie sa femme, qui en épouse une autre, commet adultère. Donc, c'est l'enseignement du Seigneur, cet enseignement que les disciples trouvaient choquant.
On peut le répéter, comme il était dit là, donc en épousant une femme répudiée, il commet adultère. Ce qui est dit à l'origine, ce qui est dit en Matthieu 19, les deux seront une seule chair. Et ça, on ne peut pas y toucher. Devant Dieu, bien sûr.
Et il faut rappeler que c'est dit pas seulement pour les croyants, c'est dit pour tous les humains. C'est la volonté de Dieu pour l'humanité entière, parce que c'est le chemin de la bénédiction. Et ce qui est terrible, c'est de voir qu'il y a des non-croyants qui réalisent ce lien mieux que des croyants. Ça, c'était particulièrement humiliant. On rencontre autour de soi des couples non-croyants qui marchent très bien, qui s'entendent bien, qui ont un bon témoignage, et à côté des croyants qui divorcent. Et voilà.
C'est peut-être pas inutile de rappeler que quand on touche à quelque chose qui est fondamental, qui est selon la volonté de Dieu, mais qui est fondamental, eh bien, cela amène tout un tas de problèmes qui sont après impossibles à résoudre. Très pratiquement, dans un divorce, que de problèmes cela amène. Si on parle alors quand il y a des enfants, quel désastre. Eh bien, pourquoi ? Parce que on a touché à ce que Dieu avait institué lui-même. Et ça, on ne mesure pas, et les hommes en général ne mesurent pas, parce que Daniel l'a dit justement, ça touche tous les hommes, ça ne touche pas que les croyants. Et je crois que les hommes ne mesurent pas, bien sûr, l'importance du mariage sous ce côté-là, mais ça n'empêche pas qu'il y a à la suite de cela, des désastres dont toute l'humanité souffre.
Paul, en 1 Corinthiens 7, il dit, mais si vous êtes marié et que l'un des deux conjoints se convertit, est-ce que le fait que l'autre soit resté païen est motif de divorce ? Non. Et il va même plus loin, il dit, la bénédiction de Dieu sur ce lien indissoluble sanctifie le conjoint non-croyant, c'est-à-dire lui apporte une garantie de moralité dans le domaine le plus intime qui soit. C'est extraordinaire, c'est que cette bénédiction s'étend du conjoint croyant, s'étend aux enfants et s'étend aux conjoints non croyants. C'est la preuve que ce lien a une valeur extraordinaire.
Il faut quand même admettre qu'il y a des situations conjugales qui sont intenables. Même entre croyants, il peut y avoir des choses. C'est anormal, mais ça peut exister. Et la parole donne une solution, toujours dans 1 Corinthiens 7. Si la femme est séparée, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc Paul considère comme quelque chose de tout à fait possible qu'un couple croyant ne puisse pas vivre ensemble, mais qu'elle demeure sans être mariée, qu'ils demeurent chacun de leur côté, ou qu'ils se réconcilient, mais qu'ils n'entrent pas dans une nouvelle relation qui les amènerait à commettre adultère.
1 Corinthiens 7, verset 10 fait le, et 11 fait le lien parfait entre les deux paragraphes qui sont là en Matthieu 5, du verset 21 au verset 32, en nous montrant la source de nos difficultés finalement, qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est qu'il y a eu très probablement des choses qui relèvent du premier paragraphe et qui n'ont pas été résolues. Et nous savons bien comment ces choses-là risque de conduire à des situations, toute situation conflictuelle à l'intérieur d'un couple peut conduire, si on reste sur ses positions, à des situations difficiles. Nous sentons combien il y a un lien très important entre le premier cas et le deuxième. Et c'est pas pour rien que le Seigneur commence par ne pas se mettre légèrement en colère contre son frère. Et c'est là sans doute la source du maintien de relations harmonieuses dans tous les domaines, y compris dans les relations conjugales. Certainement. Et aussi, alors après, ne pas jurer, ne pas insister. Éviter deux écueils qui sont des écueils gigantesques, éviter d'entrer dans une situation conflictuelle, éviter d'insister sur ce que l'on pense être soit ses droits, soit ses opinions.